Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. On va tous mourir!
Jour 13, le jour où on est fatigué, où Guillaume s'est levé à 5h30 pour bosser, où il est rentré, a dû gérer son fils pendant que sa meuf, c'est moi, ait travaillé plus tard que d'habitude. En d'autres circonstances, la vie normale d'un couple. Je crois qu'on finit par s'habituer à ce confinement. Alors ce soir, après de longues journées, après des podcasts à écrire et à mixer, on lâche prise, on se détend et on vous propose un petit moment avec nous, mais un peu différent des jours précédents. Je m'appelle Marie-Lucille, et avec Guillaume, on vous propose une petite distraction futile. Mais tant pis, car on est là et qu'on fait avec ce qu'on a. Voici ce soir, notre interview traquenard. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Alors, je suis ravie de te recevoir dans cette humble demeure au carrelage couleur...
Gray. Je suis très content, c'est la première fois que je fais l'émission. On m'en a parlé longuement.
Oui,
on m'a dit
oui.
Que c'était toujours un espèce de baptême du feu, que les gens ici étaient un peu. Enfin bref, il y a Ardisson, Ruquier et Marie-Lucille Griot.
Ah non, faites pas trop. Tout de même, je pense qu'on peut se tutoyer d'ailleurs. Est-ce que ça te dérange, toi, Guillaume?
Non, pas du tout. Moi, en plus de ça, je suis
passons le pas.
Non, allons-y.
Allons-y. Alors, franchissons-le. Nous sommes en période exceptionnelle, période de confinement, mais nous sommes là et nous sommes vivants. Donc je pense qu'on peut, braver les frontières de la politesse pour passer à un tue d'amitié et de solidarité.
Puis tout à fait, finalement c'est très franco-français de vous voyez, hein. N'oublions pas que nos cousins canadiens se tutoient naturellement, parce que finalement le « you » comme en anglais c'est quelque chose d'assez universel, c'est un peu le « vous », c'est un peu le « toi », et finalement est-ce qu'il n'y a pas dans le tutoiement, un certain tutoiement de la vie et de l'appréciation des choses au plus profond, au plus près, faire face à face avec l'essentiel, finalement.
C'est beau. C'est beau, et je remarque
C'est dire tu à la vie.
Un côté polyglotte dans ton parcours.
Tout à fait.
Est-ce que tu n'aurais pas une petite sensibilité pour les langues?
Depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai embrassé ma cousine derrière un fagot de
une de cousine voix. Anglaise, il me semble.
Non, pas du tout.
C'était
une cousine saintongeaise. Mais bon, c'était déjà une certaine forme de voyage, parce que la Saintonge, c'est quand même une autre France.
Je ne connais pas du tout, mais je moi,
c'est dans le sud-ouest. C'est dans le sud-ouest, l'endroit où on mange des moules, on dit rose.
Ah, ça sent... Oui, ça...
Royan, l'île
de Léron. On sent la sardine,
Non, quand même pas. La Rochelle, tout ça, les francopholies. Calme-toi. Ça présente des émissions.
L'océan Atlantique.
On sent que la géographie, c'est pas ton fort.
L'océan Atlantique, excuse-moi.
Tu galères avec le camembert bleu, hein, j'en suis sûr. Tu peux nous l'avouer maintenant. Bon,
moi je viens de.
Toi, tu viens de Morteau et personne ne sait le placer
et du
non
Portugal.
Plus.
Alors,
et personne ne sait le placer sur la carte non plus, hein, je te rassure. On
c'est
bouffe
vrai.
Tous du comté, mais alors où est-ce que c'est? Bon, donc nous en étions où? Où en étions-nous?
On n'en était pas au début.
Enfin, bon. On essayait de se tutoyer la vie.
C'est ça.
Tu me dis tu, je te dis tu. Et finalement, est-ce que quand je te dis tu, on n'est pas dans une certaine forme de psychanalyse? Parce que tuer, c'est mourir, mais en même temps, c'est tutoyer la vie. Enfin, tu vois, réflexion.
C'est incroyable.
En même temps, je suis plutôt Lacan que Freud. Enfin bref.
On y reviendra. Ma première question, c'est, tu as passé le cap des 33 ans. Comment on vit avec 34 ans?
J'ai pas trop vu la différence. C'est comme les yaourts nature. Tu passes le cap de la péremption, mais en même temps, c'est toujours bon. Donc tu les bouffes, enfin du moins tu les fais bouffer à tes enfants parce que toi t'es un peu psy, t'as un peu peur de t'empoisonner, mais tu n'as pas peur d'empoisonner tes gosses, donc voilà. Mais non,
c'est un passage en douceur.
Ouais, on peut dire ça. Enfin, ouais, ça.
34 ans, donc c'est pas l'âge de raison, c'est pas l'âge de... Non, 34 ans, un âge banal, un âge bâtard, un âge...
Mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, si tu veux, est-ce qu'on en a vraiment conscience que c'est vraiment un âge? Enfin, c'est ça aussi qui, moi, m'interroge, si tu veux. Je ne me sens pas âgé de 34 ans. Chaque année, je... De toute façon, c'est simple, depuis 30 ans, chaque année, je passe une année et j'ai pas l'impression de vieillir, j'ai l'impression d'être...
T'as pas conscience du temps qui passe. T'as pas conscience de l'âge.
Non, clairement pas. Puis comme je suis né le 26 décembre, autant dire que on a autre chance à penser le 26 décembre que
à son foie.
Oui, ou à son âge. Et finalement, chaque année, j'oublie un peu mon anniversaire et j'oublie l'âge que j'ai. Et voilà, je vis assez bien.
Alors, tu as dit dernièrement que tu vouais un culte à Christophe Maé. D'où te vient ce goût pour la chanson française de qualité?
Eh bien, j'avoue que déjà, ça, c'est quelque chose lié à mes parents. Voilà, tu vois, on parlait de Freud et de Lacan juste avant. Et c'est ma mère qui adorait la chanson française. Mon père aimait la chanson française à texte et ma mère aimait la chanson française pop, donc Jean-Jacques Goldman, Balavoine. Ce genre de choses-là, et j'ai toujours aimé ça. En vrai, j'ai toujours aimé ça. Déjà, je suis quelqu'un qui adore la musique, donc voilà. Et pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique, j'aime toutes les musiques. Et alors, pourquoi Christophe Maé? Mais c'est assez inexplicable. Alors déjà, j'adore son premier album. Quand le premier album est sorti, j'ai adoré et j'adore toujours ce premier album. C'est l'album que je me suis acheté à Noël, dont on a parlé dans un précédent épisode. Et je trouve que... Ce mec-là a une espèce de bonne humeur et parfois de bonne humeur dans la gravité aussi, parce qu'il peut faire parfois des chansons qui sont pas forcément, pas, je dirais pas drôles, mais en fait, je trouve que le bonheur se nourrit assez bien de la mélancolie aussi parfois, et je trouve qu'il réussit ça. Et quand j'écoute Christophe Maé, je suis désolé de le dire, mais ça me rend, enfin ça me
ça te rend heureux?
Ouais, et non seulement ça me rend heureux, mais ça me fait voir la vie de façon positive. Et j'aime. C'est triste à dire, mais c'est cool, c'est lui qui arrive à me faire ça. Je me sens vivant quand j'écoute du Christophe Maé. Et j'aime bien, voilà. C'est dingue parce que je vais te dire, parce que j'en suis hein, quand même. C'est quand la dernière chanson de Jennifer est sortie. J'ai écouté, j'ai dit, ouais, ça ressemble à du Christophe Maé. Et bah, devine quoi, c'est lui qui l'a écrit.
C'est Christophe Maé.
Mais il y a quelque chose, voilà, d'assez pur dans le. Je retrouve. En fait, ce que j'aime dans la chanson française pop, entre guillemets, dans la variétoche, c'est l'aspect extrêmement simpliste et simple parfois de certaines chansons dans leur texte, mais avec une certaine. C'est l'effet Barnum, tu vois, c'est comme l'horoscope, ça parle à tout le monde. C'est ultra simple et ça parle à tout le monde. Et je trouve que c'est pas si simple en réalité de réaliser ce genre de chanson. Et je trouve ça chouette que. Tout le monde dit que c'est merdique, mais en même temps, il remplit des zéniths. Et finalement, c'est que ça doit toucher pas que moi. Et je pense que ça touche un peu tout le monde. Et voilà, ce mec-là arrive à me rendre heureux assez souvent. Et je trouve ça chouette.
Très bien. Si tu savais. On m'a murmuré à l'oreille que tu étais allé voir Aya Nakamura en concert. Quel sera ton prochain spectacle quand la fin du confinement sera venue?
Alors, j'aurais aimé dire Christophe Maé. J'aurais tellement aimé. J'ai essayé d'avoir des places pour aller le voir au Zénith avec mon frère. Je crois que mon frère le fait pour la blague. Moi, maintenant, je sais ce que c'est qu'une blague qui va trop loin puisque je suis allé voir Aya Nakamura. Au départ, c'était une blague, mais après, on s'est dit cette blague n'est pas si drôle finalement. Quel concert j'aimerais faire après le confinement? Eh ben, ça va te surprendre, mais je pense que j'aimerais bien les faire Rage Against the Machine pour au Festival Rock en Seine. Parce que c'est tout un pan de mon adolescence. Et ouais, c'est le truc qui, je pense, s'approche le plus de ce que j'ai envie d'aller voir. Il y a eu quelques concerts qui me disaient bien là récemment, mais... Ou les trois accords, ça me disait bien parce que aussi c'est positif, mais ouais, c'est con à dire, mais je crois que ça me disait vraiment bien. Parce qu'en plus de ça, j'ai vu quelques lives de lui et ça a l'air d'être un mec qui se la donne sur scène. Et surtout, il fait tout en acoustique, enfin, il fait tout live, ce qui est rare en plus de ça en ce moment parmi la variété française. Généralement, il te fout une bande et le mec il chante dessus. Ouais, si, et puis en plus de ça, enfin c'est pas tant ça, c'est que pour avoir vu des extraits de concerts, en plus de ça il est très dans l'impro et dans le, enfin voilà, chaque jour un spectacle, et ça je trouve ça plutôt rare, voilà, et je trouve que avoir un artiste, et pour, alors pour vous dire, j'aurais bien aimé aussi voir Trio, tu vois, autre truc, et les je sais plus combien d'années l'anniversaire du Trio avec Zaz en plus, pourtant j'aime pas beaucoup Zaz. Mais ouais, ça m'aurait dit, parce que j'aime bien c'est ce que j'aime bien dans le Trio, c'est cette espèce d'expérience de concert un peu différente à chaque fois et un peu généreuse. Et voilà, j'aurais aimé faire un concert généreux. Et donc sûrement Trio, Christophe Maé, pourquoi pas. Ou un truc un peu plus, entre guillemets, sûrement intimiste. Là, j'ai pas de groupe en tête, mais un Knock de Barbac ou un truc comme ça, en plus, comment dire... moins connu, en plus underground. Tu as remarqué mon polyglottisme.
Oh, quel accent.
Voilà, c'est un truc quoi, qu'il m'aurait dit. Mais là, comme ça, j'ai rien qui me saute aux oreilles tout de suite pour te donner une réponse.
Quand le confinement sera passé. Comment tu te vois dans 10 ans?
Alors, j'aurai 44 ans.
C'est ça.
En fait, j'en sais strictement. Alors, je crois que j'ai toujours su où j'allais dans ma vie. Là, j'en sais rien. Je pense que j'aurais déjà changé de métier, mais je sais pas lequel. Parce que je crois que je suis à un moment de ma vie où. Je suis entre. Faire un vrai truc de ma vie et faire un non-truc de ma vie. Alors, vrai truc, c'est. Au sens où la société nous définit. Hein.
Ah.
Soit pour faire un métier, parce que je passe un nouveau diplôme justement pour faire de l'encadrement, etc. Et ça, c'est un vrai truc de ma vie où je gagnerai quelques sous et je ferai un truc avec du sens. Le non-truc, ça a tout autant de sens, mais c'est vachement plus créatif. Parce que ça commence à prendre une part assez grande de ma vie. Et je me dis que si je pars dans des métiers de l'encadrement, etc., j'aurai plus de temps pour faire ça. Et je crois que j'ai pas encore fait mon deuil de ça. Et on verra. Si je m'y retrouve dans l'un, peut-être que ça nourrira l'autre. Je n'en sais rien actuellement. Donc dans 10 ans, déjà, il y a ça. Je me vois marier peut-être dans 10 ans. En tout cas, plus très loin. J'espère.
Plus très loin du mariage.
Je pense que ce sera fait plus longtemps. Mais bon, on ne sait jamais. Le coronavirus, ça peut durer longtemps. Hein. Dans 10 ans, qui sait où est-ce qu'on en sera de la quarantaine, hein, voilà. Donc toutes les semaines, ça change.
On sera à la quarantaine, du coup.
Ouais. Et puis, non, je sais pas. Mes parents diront 10 ans de plus. Je sais pas. Je me pose pas trop la question. J'aime pas me projeter dans ce genre de prévision-là. Parce que de toute façon, encore une fois, je me vois pas vieillir. Donc j'ai pas envie de voir vieillir les autres et j'ai pas envie de faire de projet sur les autres. Voilà. Parce que moi, à vrai dire, je m'en fous, je mettrai ma parc.
Très bien. On dit de toi que tu es un vrai bout en train. Est-ce que tu acceptes ce qualificatif?
Mais complètement. Mais complètement, je crois que j'enjaille les gens. Je crois que je suis un vrai saltimbanque. Je pense même que les gens ont parfois de la chance de m'avoir. Parce que leur vie serait triste. Voilà. J'aime faire des dessins stupides, j'aime faire des calembours stupides dans mes dessins stupides, j'aime décider des quéquettes et je trouve ça drôle. Je pense qu'une bonne blague se finit toujours par un prout. J'ai aucun mal à dire tout ça. Enfin, voilà, j'aime la trivialité, j'aime bien la blague subtile, mais j'aime aussi parfois la trivialité. Et je l'apprécie beaucoup plus quand elle se part de simplicité. je fais un métier où on est beaucoup dans l'essentiel, et dans l'essentiel, il y a beaucoup de trivialité, et ça n'empêche pas pour autant la poésie, et ça n'empêche pas, voilà. Et ouais, je suis un bout en train, ouais, j'aime faire marrer, j'aime... C'est pas faire marrer, j'aime le voir un sourire. J'aime voir les gens sourire. Est-ce que c'est ce moment où ça se détend? Et ça m'arrive beaucoup au travail. Je suis... Voilà. Et après, c'est une... En plus de ça, c'est un jeu de la mesure, finalement. Parce que, justement, quand on aime la trivialité, quand, voilà, faut être assez provoque parfois pour faire rire et générer le décalage. Et en même temps, juste ce qu'il faut pour ne pas aller au-delà. Donc, ouais, j'aime la blague et la grosse blague. En ce moment, depuis les phénomènes, depuis la découverte que j'étais un mâle blanc cisgenre de moins de 50 ans et que j'étais un oppresseur, je revois beaucoup mon humour pour l'adapter à notre époque, mais pour être au plus près de... Enfin, justement, parce que ça m'a posé la question de ne pas heurter. Mais voilà.
Est-ce que tu es féministe, du coup ?
C'est une bonne question.
En réflexion ?
Non, c'est pas ça. C'est dans quelle mesure on peut, en tant qu'homme, se déclarer féministe ? C'est une question que je n'ai pas résolue. Je pense que j'essaie de faire au mieux pour y réfléchir à la question. Et je pense que c'est déjà le début d'un... C'est un bon départ que d'être conscient qu'on peut être oppresseur, quelle que soit la façon d'oppresser, et quelle que soit, voilà, notre place dans la société, le fait qu'on puisse être dominant, voilà, c'est... Donc à ce titre, je dirais pas que je suis féministe, mais en tout cas que la question m'interroge et que je fais mon mieux pour, en tout cas... mener une certaine forme d'équité, d'égalité, je ne sais jamais trop ce qu'on... Enfin voilà, le poids des mots, le choc des photos. Non mais on fait ce qu'on peut, quoi. J'essaye de faire ce que je peux à ma mesure, j'essaye de faire ce que je peux dans l'éducation de mon fils, j'essaye de faire ce que je peux aussi dans mes cheminements et dans mes questionnements, parce que je me demande aussi ce que je veux pour mon petit garçon, donc... Et comment je veux qu'ils voient les femmes. Et je pense que si c'est loupé pour notre génération, la sienne, elle a toutes ses chances. En tout cas, dans le progressisme.
C'est pas loupé pour notre génération.
Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'on a des... On a encore des facilités de comportement et de langage qui trahissent une certaine forme d'éducation que peut-être nos enfants n'auront pas. Du moins, je l'espère.
Tu parlais du dessin tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aimes dessiner ? Qu'est-ce que tu as un modèle préféré ?
Des tubs. Ouais, en vrai, j'ai eu une période où j'adorais dessiner des zizi. Parce que je trouve ça con. Enfin, quand je dis des zizi, j'ai fait beaucoup d'appareils génitaux, en fait. Des zizi, j'ai fait des vagins. J'ai fait, en fait, tout ce qui est en dessous de la ceinture.
C'est encore ?
Ouais. Ouais. Puis en fait, si tu veux, c'est tellement les appareils génitaux, le cul, tout ça, c'est tellement la quintessence de la trivialité, l'essence même de à la fois du vulgaire, que tu peux le mêler avec plein de choses. C'est toujours drôle. Je faisais beaucoup des pénis pendant un temps qui disaient Jésus t'aime. Donc en mêlant justement l'extrême trivialité avec, voilà, et en même temps mes pénis ne sont pas des trucs gros trucs nervurés très anatomiques, non, c'est des petits pénis mignons qui sourient. Et voilà, ça me fait rigoler, et en même temps je trouve pas que ce soit une image particulièrement choquante pour les petits garçons, pour les petites filles. Bon, voilà, maintenant je réfléchis à la version petite fille et de la rigolade et tout ça, mais après, qu'est-ce que j'aime particulièrement dessiner ? J'aime bien dessiner tous les objets du quotidien, et surtout quand ils font des calembours. Aujourd'hui, j'ai dessiné un feutre avec une gomme, et la gomme dit au feutre « Je pense que tu devrais tirer un trait sur ta vie. » Et je trouve ça drôle. Voilà.
Tu portes un t-shirt bleu, Marine. Ça t'évoque quoi ?
Ça m'évoque la Normandie d'où je viens. quand je le regarde, il y a une odeur de camembert qui s'imprime dans mon nez.
C'est parce que tu l'as porté longtemps ou c'est vraiment l'imagination comme ça qui travaille.
C'est mon camembert de Proust.
C'est ton camembert.
Voilà.
Et revenons un peu à ton enfance, si tu veux bien, car tout artiste a une enfance. Comment vivais-tu petit ?
Alors, nu, dans la forêt, forcément. Comme
la forêt de Normandie, du coup ?
Comme tous les enfants. La forêt de Caen ? Non, pas du tout. En fait, je suis né dans la banlieue chic parisienne, mais mes parents, ils étaient ni banlieusards ni chic. Enfin, peut-être banlieusards, mais pas chic à l'époque. Je pense même qu'il n'y avait pas beaucoup de sous. Je sais que le premier salaire que s'est versé mon père, c'est quand j'avais 7-8 ans. Donc, en vrai, c'était pas. Voilà. Mais c'était une enfance heureuse. Et puis, papy et mamie, ils avaient plein de livres. Ils ont essayé de m'imposer plein de trucs que j'ai mis 20 ans à comprendre qu'en fait c'était bien. Genre, ma grand-mère adorait Gainsbourg, elle me faisait écouter Gainsbourg et je trouvais que c'était complètement nul. Je trouvais Rides vachement mieux parce que c'était vachement plus punk. Et en fait, j'ai compris plein de choses après la mort de ma grand-mère. Finalement, c'est triste parce que j'aurais pu lui en parler. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Vu qu'à faire un effort, elle peut décider si.
Maintenant, t'aimes Gainsbourg ?
Bah, j'aime bien, ouais. J'aime bien, mais pas forcément le truc que je préfère. Mais ouais, non, ceci étant dit, voilà, j'ai eu une enfance heureuse et blindée de culture. C'était non-stop. Voilà.
Tu voulais faire quoi quand tu serais grand ?
Je voulais. Alors, j'ai oscillé entre prêtre et écrivain. Et c'est vrai. Et c'est même pas une blague. Ouais. C'est marrant, hein, mais j'ai fait une profession qui marche beaucoup à la vocation. Donc, finalement, il y a côté prêtre. Et en même temps, je fais pas mal de trucs créatifs. Parce que j'aime bien raconter des histoires. Même quand j'étais ado, je racontais plein de mensonges. Donc, c'est-à-dire si j'aimais raconter des histoires. Donc, voilà.
Mais tu ferais pas prêtre, du coup ?
Non, mais je vais garder le spirituel. Parce que je crois. J'ai du mal à croire en un truc, mais je crois beaucoup, comme disait Mitterrand, aux forces de l'esprit, mais c'est pas aux forces de l'esprit au sens... comment qu'on dit déjà, au sens pas spirituel, mais c'est pas tant le mot, c'est... Enfin voilà, disons que je suis pas dans un espèce de... je suis dans une spiritualité, mais voilà, je suis pas dans un espèce de panthéisme, de déisme. C'est plutôt je crois que l'humanité je crois à la transcendance, voilà, c'est plutôt ça le mot. Je crois à la transcendance et à quel point l'humain peut se transcender au-delà de son existence, enfin à travers son existence. Donc à ce titre, c'est ça que je retiens du côté prêtre, du côté spirituel. Voilà, je pense qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes et que ça peut nous rendre heureux et même ça peut transcender du moins ceux qui nous entourent.
Ça rejoint ce qu'on dit, mais tu as fait des études de philosophie. De quel courant pourrais-tu te revendiquer ?
Spéléologiste. J'adore le mythe de la caverne. Tu l'as pas vu venir, celle-là. De quel courant je me... En fait, j'adore Aristote. J'adore Aristote et j'adore l'éthique anicomaque d'Aristote. J'adore sa vision de l'humanité qui vise à dire que l'humanité est un extrême de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, il oscille toujours. Il déplace, en fait, il dépasse la dichotomie platonicienne qui vise à dire que nous sommes corps et esprit. Et il dit qu'on est les deux en même temps. Et l'être humain, finalement, c'est la rencontre de ces deux points. Et en même temps, tourner vachement vers les autres, la reconnaissance chez l'autre. Voilà. Et j'aime cette vision-là. Cette idée que, on est la meilleure version de nous-mêmes, qu'on est dans notre meilleure vie, quand on est capable d'échanger avec l'autre et de construire un truc avec lui. Et c'est ce que dit finalement Aristote, parce que quand on parle... à un être humain et qu'on l'identifie comme être humain, en fait on fait des trucs à deux qu'on n'aurait jamais fait tout seul, et on se révèle à l'autre et l'autre se révèle à nous, et d'un coup on a un océan de compréhension, un océan de création et d'infinité de possibilités à deux qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Quand on mesure le chemin parcouru, lui il dit que l'amitié c'est la plus belle chose qui soit arrivée à l'humanité. C'est un peu ça, et parce que à cause de ça, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais profondément. Je ne crois pas que l'homme est un loup pour l'homme. Voilà, j'ai un profond optimisme là-dessus.
Alors, pour surfer sur ta métaphore, est-ce que tu as pris la vague et est-ce que tu as expérimenté cette possibilité avec d'autres personnes ?
Eh bien, je pense que je le fais quotidiennement au boulot. Voilà. C'est pour ça que j'aime mon boulot. Et c'est pour ça qu'il m'agace autant quand il ne génère pas ça. Voilà. Parce que j'ai l'impression que je fais un métier qui se pratique en équipe. Et je trouve qu'il parle à l'intelligence des gens malgré eux. Et c'est ça que j'apprécie. C'est que même s'ils ne sont pas forcément toujours des puits de culture, qui ne sont pas d'une intelligence incroyable, et ils ont une certaine forme d'humilité par rapport à ça, et donc ça les amène à être intelligents malgré eux, ça les oblige à discuter, ça les oblige à construire, et c'est ce que j'aime le plus en réalité dans mon métier.
Est-ce que c'est le sens de la vie ? Est-ce que c'est le sens de ta vie ?
Non, le sens de la vie, c'est une chanson de Tal, et c'est une très bonne chanson d'ailleurs, j'adore Tal. Bah tiens, on pourrait aller le voir en concert, ça me dirait bien. L'époque, le sens de la vie d'ailleurs. Ouais, c'est le sens de ma vie, ouais, je pense.
Est-ce que tu dirais que tu es heureux aujourd'hui ? Est-ce que tu crois au bonheur ?
Alors, je crois au bonheur. Est-ce que je suis heureux ? J'aime pas dire que je suis heureux parce que c'est un baromètre à la con, le bonheur. En réalité, ça a pas de sens. Mais je dirais que je suis pas mal heureux et que ça va. Voilà.
Est-ce que tu as déjà réfléchi à ta mort ?
Oui. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté avec ces conneries. J'ai arrêté parce que sinon je dors plus. Et je suis quelqu'un qui a des angoisses eschatologiques incroyables. Ça peut m'empêcher vraiment de dormir.
Est-ce qu'il y a une façon spécifique que tu voudrais mourir ? La façon dont tu voudrais mourir ?
Vieux. Vieux et apaisé. Quelle que soit la vision de l'apaisement que c'est. C'est-à-dire dans mon sommeil ou apaisé dans une certaine acceptation de ma mort ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui... Je suis pas sûr que j'accepte beaucoup la mort. J'accepte beaucoup celle des autres, mais pas trop la mienne. Voilà. Je pense que mon existence se jouera beaucoup dans cette acceptation-là.
Eh bien, on va passer à la dernière question. Qu'est-ce qui te reste à attendre de la vie ? Te reste en même temps, t'as que 34 ans. Hein. Qu'est-ce que tu attends de la vie ?
Mais en fait, j'attends pas grand-chose. Je m'en fous un peu. Je crois que je m'en fous un peu. J'attends rien. Tu vois, j'aimerais te balancer ce qui me motive, une motivation, ce vers quoi je tends. À part mon amusement personnel, perpétuel, une certaine forme de plaisir de la vie, j'attends pas grand-chose. Puis je pense que j'ai... Malgré le fait que je suis capable de me projeter, d'avoir des projets, je crois que je vis beaucoup au jour le jour sur plein de choses. Et que moi, j'ai le plaisir des banalités, les plaisirs du quotidien. J'attends pas de grandes choses. Voilà, juste de voir un peu ce petit détail, l'envers du décor qui fait plaisir, cette petite compréhension du jour au jour le jour. Voilà. Ce petit truc qui vous déclenche un « Ah ouais, tiens, ça c'est cool. » finalement, ouais, j'ai compris un truc. Et puis, il y a une espèce de, ces espèces de petites épiphanies quotidiennes, ces petits trucs. Voilà. Et moi, je me régale de ça, en vrai. Quand je dis je me régale de ça, ça fait vraiment le sel de ma vie. Voilà.
Eh bien, sur ces mots, iodés, nous allons terminer cette interview traquenard. Merci Guillaume d'avoir participé et d'être venu à cette table nous parler de toi, finalement. Et je vous donne rendez-vous demain, si tout va bien.
Oh, ça ira bien.
Alors, à demain.
Pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurai toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je serai même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache. Avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, d'un chef de file, j'en ai pas le profil.